Chapitre 3. Cependant, en réfléchissant, je pensais qu'il serait maladroit d'écarter entièrement un sujet qui intéressait à si haut point Manette, et de temps en temps, pendant les jours suivants, je la questionnais sur M. Kerdulen. « Vous l'avez vu une seule fois à Paris, je crois ?»«
Oui, une fois seulement. »«
Comment est-il ? Bien physiquement ?»«
Bien, oui. »
dit-elle avec une négligence évidemment affectée. Vous l'a-t-on présenté?
Non, le salon était plein de monde et vous pensez bien qu'il ne m'a pas remarqué. Mais il était présenté de façon collective car on a fait cercle autour de lui pour l'écouter.
Comment pour l'écouter?
Il racontait des incidents de guerre et avec tant de cœur qu'il a plu à tous.
La façon dont elle me répondait, et encore plus ses réticences, me rendait bien songeuse, et je jugeais sévèrement les latitudes de correspondance accordées sous le couvert d'une idée aimable ou généreuse.
« Mais, repris-je, depuis, vous avez souvent entendu parler de lui ?»«
Très peu. J'ai connu indirectement les détails que vous connaissez déjà. Par ses cousins, j'ai su qu'il s'ennuyait au Maroc, circonstance qui ne m'aurait pas frappé si je n'avais pas vu M. Kerdulen à Paris, car les officiers qui s'ennuient ne sont pas rares, je suppose.
Mais son adresse?
Il avait dit devant vous qu'il partait pour Fès et je connaissais le numéro de son régiment. J'ai adressé ma première lettre à Fès et, bien qu'il fût déjà parti, elle lui est facilement parvenue. Dans sa première réponse, il donnait naturellement son adresse exacte.
Les mains derrière le dos, elle allait et venait dans le salon, donnant un coup de pied à un coussin pour mieux accentuer ses dires ou se plantant devant moi en me regardant pensivement.
« Je regrette l'interruption de notre correspondance, ma cousine. C'était amusant. »
« Elle ne pouvait pas se prolonger indéfiniment, Manette. »
« Non, mais je suis ennuyée de ne rien savoir. Où est-il? Le verrons-nous chez ses cousins ?»
Sans attendre ma réponse, elle ajouta gaiement
« C'est probable, c'est même certain. »
Heureuse faculté de croire si vite à la réalisation de ce que l'on désire. Manette, malgré le fond sérieux de sa nature, butinait sur toutes les idées agréables qui se présentaient à son imagination vive et jeune. Quand il s'agissait des petits faits de la vie courante, cette disposition était une qualité, mais dans le cas qui la préoccupait, elle devenait, selon moi, un danger. Son père ignorait les espérances qu'elle me laissait apercevoir ingénument. Il ne voyait dans le marrainage de sa fille qu'un incident puéril tombé dans la banalité. J'en aurais fait autant, très probablement, sans la confiance de Manette et ses inconscientes confidences.
« À la grâce de Dieu, après tout, me disais-je, si cet officier vient ici, peut-être l'aimera-t-il. L'un et l'autre savent toujours qu'ils ont de l'esprit. » Après m'être abandonné à mes réflexions, je demandai à Manette si elle avait parlé à ses amis de sa correspondance avec M. Kerdulen.
« Non, non, autant alors crier la chose sur les toits. Je n'en ai rien dit, même à ma plus intime amie, Céline de Falibert, que vous verrez enfin demain. Mon amusante aventure est entre vous, moi et mon père. Si la correspondance avait continué, j'aurais eu, je crois, besoin de vos conseils. En tout cas, il vous écrira pour vous dire s'il est en France.
Vous croyez? Moi aussi, je le crois, et père, qui revient ce soir de Paris, m'a promis de passer poste restante. » En effet, Geoffroy rapporta une lettre qui attendait depuis 8 jours qu'on vint la chercher.
« Madame, je suis en France et déjà, à Paris, je me suis permis sur vous quelques recherches. Personne n'a pu éclairer ma route de la moindre lueur, et pourtant, madame, c'est à Paris certainement que vous m'avez vue. Je suis donc allé dans les maisons où j'ai dû vous rencontrer, sans me douter des rapports délicieux que votre bonté créerait un jour entre nous. » J'ai trouvé visage de bois à peu près partout, sauf dans 2 maisons où chacun s'est complu à m'égarer. On me dit d'abord que c'est Mademoiselle Y, qu'on l'attend et que je n'ai qu'à l'attendre moi-même. Pardonnez ce style, j'écris à la hâte. Elle arrive, c'est une petite femme de 60 ans, lourde, sans grâce, aussi médiocre d'esprit que d'apparence. D'ailleurs, vous êtes jeune, j'en suis convaincu. Alors, on me désigne Madame de N, qui collectionnait les filleuls pendant la guerre. Une cinquantaine, je crois. Je la vois, elle est jeune, assez bien, mais répond si peu à l'idée que je me suis faite de votre personne. Du reste, elle me rit au nez quand je commence auprès d'elle mon enquête. Trois autres fois, j'ai cherché bien vainement, et en désespoir de cause, je commencerai mes recherches à Anjou, aussitôt que seront réglées les affaires urgentes qui me retiendront quelque temps ici. Si je n'aboutis pas, je me retirerai sous ma tente avec un souvenir qui restera, madame, un trait acéré, car que vous ayez ou non un mari, qu'il soit lion ou agneau, vous demeurerez l'esprit incarné dans une forme jeune et belle. C'est l'image que mon imagination a burinée, elle la conservera à travers la vie. Je mets à vos pieds mes respectueux hommages. Kerdulen. Sans mot dire, je rendis la lettre à Manette. « Eh bien, ma cousine ?»« Eh bien, décidément, il est prétentieux. »« Prétentieux ?» s'écria Manette d'un air mécontent. Elle eut bien envie de se fâcher, ainsi qu'il lui arrivait parfois sans vergogne. Toutefois, se bornant à me laisser entendre que je n'étais pas à la hauteur de cette merveilleuse littérature, elle ajouta « En tout cas, nous le verrons bientôt, cet homme prétentieux. » Un être plus agréable à voir que ce capitaine Kerdulen, du moins je le supposais, c'était Mademoiselle de Falibert, qui vint le lendemain déjeuner au Bourdon. Elle revenait d'un grand voyage qu'elle nous conta agréablement, en voyageuse qui a su voir et comprendre. Extrêmement jolie, gracieuse de taille et de démarche, avec une expression attirante, elle me plut de prime abord sans réserve. Les deux jeunes filles s'aimaient tendrement, et leurs propriétés étant presque mitoyennes, elles se voyaient à peu près quotidiennement. Leur conversation, tantôt sérieuse, tantôt frivole, m'amusa bientôt. Ce jeune ramage redonnait de la fraîcheur à mes pensées. « J'aime tant Nanette, me dit un matin Cécile de Falibert. Je me demande si personne la connaît aussi bien que moi. Est-elle donc difficile à connaître ? Au milieu de ses qualités et de ses défauts, on discerne facilement sa nature droite et limpide. Manette ne serait pas capable de grandes choses, je crois, mais avec un caractère aussi gai, qui prend tout du bon côté, elle rendra toujours les autres heureux. C'est un don précieux. » L'air sentencieux de ce jeune et charmant visage était amusant, et ma vieille expérience souriait de la foi juvénile dans les grandes choses. « En temps ordinaire, répondis-je, la vie entière passe sans l'heureuse rencontre de grandes choses à accomplir, du moins extérieurement. Tout s'annonce pour que l'existence de Manette demeure dans la voie commune. Pourquoi, madame, dites-vous, du moins extérieurement ? Parce que, selon moi, ou plutôt selon l'avis de tous ceux qui connaissent un peu la vie, il y a des choses intimes qui, pour être simples et cachées, n'en sont pas moins immenses. » Je vous dis là une vérité de la palisse. » Elle parut étonnée. Elle ignorait que chaque individualité est, comme on l'a dit, tout un peuple avec ses sentiments, ses passions et ses nuances si diverses. « Manette, reprit Cécile, est à une école qui apprend beaucoup. Les luttes mesquines de son existence me feraient horreur. Elle les prend en riant. Le résultat est le soutien de la dignité de sa maison. » Voilà qui confirme en petit ma précédente affirmation. Vous comprenez beaucoup de choses, madame, s'écria-t-elle. C'est ce que bien des personnes qui vous aiment m'ont dit quand je suis arrivée. Elles sont bien bonnes, dis-je en haussant légèrement les épaules. Tant par Manette que par mes observations personnelles, je m'étais mise promptement au courant du petit monde qui s'agitait autour de moi. Moi, la forme, parfois profondément modifiée, il était semblable à la plupart des milieux que j'avais connus, mais la campagne, l'été, la belle lumière, la sympathie dont je me sentais enveloppée, me portaient, moi, vieille femme encore sensible, ou naïve si on veut, à le voir en beau. Bientôt, je ne sais pourquoi, parce que Manette parlait favorablement de mon caractère, je fus adoptée comme confidente par jeunes et vieux. Chacun me contait volontiers ses doléances et ses joies, et je n'avais pas besoin de répondre pour qu'on fût enchanté de mon amabilité. Ainsi va le monde et se forment les réputations. Cependant, je n'étais pas toujours personnage muet, et à mon corps défendant, je me prononçais catégoriquement quand l'occasion m'y obligeait. Je dis à mon corps défendant, car je déteste entrer dans les affaires des autres. Est-ce de ma part égoïsme ou discrétion? Les deux probablement. Mais mon sentiment est bien différent quand il s'agit de ceux que j'aime. Pour eux, assurément, je remuerai ciel et terre. Dans l'après-midi qui suivit ma conversation avec Mademoiselle de Falibert, je résolus d'aller à 1500 mètres du Bourdon, revoir l'abbaye de Saint-Maur. Des souvenirs de 20 siècles y dorment, et les réveiller est d'un intérêt toujours vif pour moi, surtout quand je suis seule, car les jeunes, à moins d'une vocation particulière, se soucient bien peu des invasions successives des Normands et des Anglais, des incendies et des ravages du passé. L'abbaye actuelle est du XVIIe siècle, avec les grandes lignes et la belle ordonnance de l'époque. Mais dans les cours intérieures se dresse une très ancienne chapelle qui renferme l'emplacement même où Saint-Maur s'était ménagé une cellule dans laquelle il passa les derniers mois de sa vie pour se préparer à bien mourir. Un sarcophage en pierre fut retrouvé dans la chapelle, à la place exacte désignée par un vieil auteur. Seulement, il était vide, le corps de Saint-Maur ayant été dérobé ou transporté dans une autre abbaye. Que de générations et de personnages ont visité ces vieilles murailles. Une inscription, en écriture du XVe siècle parfaitement conservée, indique que Jeanne d'Arc est venue vénérer l'ancien sanctuaire. Le mur extérieur de la vieille chapelle, du côté du chevet, est percé de trous multiples. C'était un pigeonnier, l'abbé ayant le droit seigneurial de posséder des pigeons. Et pendant que de graves pensées absorbaient les saints en prière, derrière la muraille, des centaines de petits êtres montraient leurs jolies têtes et roucoulaient leurs amours. N'est-ce pas singulier que ce soit un détail de l'existence journalière qui frappe particulièrement l'esprit dans une atmosphère de souvenirs guerriers, saints ou pacifiques? Qu'est-ce que ce détail dans la vie habituelle? Mais, vestige, habitude d'un temps si éloigné, il montrait la vie qui a passé sous tant de formes dans cet endroit et ressemble tant à la nôtre par ses côtés familiers. Des fouilles ont mis au jour les restes d'une habitation gallo-romaine et d'autres de l'église abbatiale du Xe siècle. Un grand nombre de poteries ont été trouvées et, parmi ces poteries, une urne de l'époque païenne qui contenait encore des cendres. Toute la cour intérieure du monastère pourrait être creusée avec l'espoir d'obtenir de curieuses découvertes. Je m'arrachai à ces souvenirs pour passer devant la façade de l'abbaye qui, du bord de la route, contemple la Loire et je m'arrêtai encore pour regarder une délicieuse maison dépendant autrefois du couvent. Elle ressemblait à la maison du Bourdon, bien qu'elle fût certainement plus vieille d'un demi-siècle. Sur le frontispice, des armes étaient gravées. Un étroit escalier de 14 marches conduisait au perron, qui se trouvait ainsi à la hauteur d'un premier étage ordinaire. Il dominait le jardin rempli de fleurs et la route derrière laquelle sommeillait le grand fleuve. La maison appartenait à M. Lafade, dont l'attrait pour Manette excitait si bien le courroux de ma vive cousine. Je n'étais jamais entré dans cette habitation et avec une curiosité dont les causes étaient fort diverses, je grillais d'y pénétrer. J'allais me décider quand M. Lafade m'aperçut et vint vivement à moi. « C'est vous, madame, quel plaisir de vous recevoir enfin. Je désire depuis des semaines vous voir chez moi. Pourquoi avoir tant tardé ? Pourquoi réalise-t-on si peu les plus simples projets ? Répondis-je en m'arrêtant dans le jardin, peuplé de roses épanouies en si grand nombre que ce jardin, sans arbres, sans arbustes, ressemblait à une roseraie. La ravissante habitation que vous avez là. Simple maison, mais qui ne manque pas de caractère. Je crois bien. » Des arcades la reliaient au grand mur de l'abbaye et l'imposante demeure bénédictine semblait la protéger comme se protège un être frêle et joli. « Qu'était-ce autrefois ? » demandai-je. « Probablement une maison de réception pour les visiteurs, ou plutôt les visiteuses, les femmes n'ayant pas le droit d'entrer dans l'abbaye. Montez, chère madame, imaginez que j'allais vous écrire pour vous demander un rendez-vous. » Ah, bah !» Nous étions excellents amis, Lucien Lafade et moi. En dehors d'une sympathie mutuelle, mes anciennes relations avec sa famille, nos souvenirs communs, nous avaient immédiatement mis sur un pied de réelle intimité. J'appréciais sa bonhomie, son bon sens et sa grande finesse. À l'inverse de Manette, je le trouvais très bien physiquement. Évidemment, les lignes étaient devenues un peu épaisses, mais ses manières polies, son langage châtillé, son expression bonne étaient des correctifs amplement suffisants. Il était sociable car nous le rencontrions dans toutes les maisons que nous fréquentions. Plutôt observateur que causeur, il ne parlait qu'à ses heures, mais alors il parlait fort bien, en homme dont les connaissances sont étendues. Ancien préfet, il avait donné sa démission en voyant la tournure que prenait la politique sectaire, ses idées étant aussi larges que son cœur était généreux. Depuis, il avait vécu avec sa mère à Saint-Maur. Resté seul, il continuait cette vie tranquille, coupée pendant l'hiver par un séjour plus ou moins long à Paris, où il conservait un pied-à-terre. Il me laissa le temps de m'extasier sur son installation, ses meubles anciens et une remarquable collection de miniatures. « Maintenant, chère madame, soyez assez aimable pour écouter mes confidences. »« Confidences, dis-je avec un visage rembruni. Je suis étonné du nombre de gens qui, depuis mon arrivée dans ce pays, me prennent pour confidente. Ce rôle me déplaît fort, je l'avoue. » Vous êtes bonne et vous inspirez confiance. Prenez-en votre parti. Surtout, je suis vieille, dis-je en riant. Voyons les confidences. Promettez-moi de ne pas vous moquer de moi. Je promets. La cause déjà devinée de son air anxieux ne manquait pas de comique, mais je me bornais à sourire intérieurement. Très simplement, il alla au but par la ligne droite. « Voici la vérité sans phrase, chère madame. Mademoiselle Ethel me plaît infiniment et je voudrais l'épouser. » Il faut croire qu'une déclaration extraordinaire, même attendue, conserve sa faculté d'étonner, car je demeurais assez abasourdi pour que mon pauvre ami devint tout penaud. Peut-être était-ce moins la déclaration qui m'éberluait que le ton simple et assuré de M. Lafade. « Comment dites-vous cela ? » répondis-je enfin. « Épouser à votre âge une fille de 22 ans ?»« je sais bien, c'est ridiculement disproportionné, mais si je plaisais, cette disproportion serait-elle un obstacle insurmontable ? Je ne le crois pas. »« Peut-être, mais... »« Mais je ne plairai pas. »« Je le crains. » Il tordait sa moustache d'un air déconcerté, pendant que, dans ses yeux bruns, passait une expression mécontente. « En tout cas, mon alliance, en tant qu'alliance, n'est point à dédaigner, madame. »« Non, assurément. Et si vous aviez 20 ans de moins ?»« 20 ans de moins » répéta-t-il avec mélancolie. Il appuya la tête sur sa main, ferma à moitié les yeux et se plongea dans une méditation qui me parut fort longue. Enfin, il reprit. « Alors, n'en parlons plus et promettez vous-même de ne parler à personne d'une idée que vous trouvez ridicule. »« Je ne la trouve nullement ridicule, dis-je vivement, mais ce n'est pas moi qui jugerai si vous la soumettiez à qui de droit. Voici un demi-siècle que mes 20 ans sont derrière moi. »« C'est juste. Un abîme sépare votre jugement de... »« Je comprends trop bien. » Son attitude me fit peine, mais comment adoucir pour lui l'amertume de cette conversation ? Moi, dis-je, je comprends que vous êtes un sympathique. Il eut un geste d'impatience et de dédain. Sympathique, ah oui, sympathique. Comme vous le disiez, je suis trop vieux. Alors, je puis compter sur votre discrétion absolue ? Je ne vous promets pas de n'en rien dire à Geoffroy. N'en dites rien, madame, je vous en prie. Puisque le projet ne peut avoir de suite, il ne faut mettre aucun embarras dans mes relations avec M. Ethel. Bien, dis-je sans m'engager plus avant dans une promesse qui, selon les circonstances, pouvait devenir gênante. Il réfléchit un moment et, sans insister sur la promesse en question, me dit avec un soupir : On désire le bonheur à tout âge, on se trompe, mais je crois que Mademoiselle Ethel n'aurait pas été malheureuse avec moi. « J'en suis convaincu dans un sens, » interrompis-je. « Oui, mais vous jugez qu'à 22 ans, une jeune fille n'épouse pas un homme de 50. Le fait s'est produit et se produira bien des fois.
Sans doute, est-il heureux?
Pourquoi pas dans certains cas? Vous connaissez les inquiétudes de ce pauvre Etel. Un mariage de raison, si on épouse un brave homme...
Il s'interrompit brusquement pour dire presque naïvement
« Je n'ai pas tort, je crois, de m'appeler un brave homme. »
« Non, certainement, répondis-je, un peu ému par le ton de la réflexion. »
« Donc, en ce cas, un mariage comme celui-là apporte la sécurité, une solide affection, un foyer. C'est beaucoup. »
« Je sais tout cela, je connais également les idées de Manette, idées arrêtées et même très entières. Mais si ma proposition lui était soumise, ses idées pourraient se modifier. Si souvent un homme change d'aspect quand, sur ce terrain, il laisse voir ses sentiments. »
« Non, ne l'espérez pas. »
Il se leva pour redresser un rideau qui était à sa place et revint s'asseoir près de moi en disant «
Alors, décidément, madame, n'en parlons plus, et veuillez excuser l'ennui que je vous ai causé en vous obligeant à écouter mes sottises. »
Son plaidoyer précédent et son air attristé prouvaient qu'en tentant cette démarche, il espérait très sérieusement réussir et que ses raisons lui semblaient les meilleures du monde.
« Elle est charmante, murmura-t-il, quel rayon de soleil dans cette maison !»
Je m'étais levé, car impossible de discuter une demande qui ne souffrait aucune discussion, et je répondis simplement « En tout cas, croyez bien que Manette serait reconnaissante de votre pensée. » Par cette politesse, je m'avançais énormément, car si Manette avait connu les ouvertures de M. Lafade, elle eût probablement cédé à sa vivacité naturelle et se fût mise en colère. Mais lui n'en pouvait rien savoir et nous nous serrâmes la main avec une sympathie qui, de mon côté, s'était accrue. Il avait parlé avec tant de simplicité et de bonhomie que j'emportais de cette entrevue un regret assez vif. 20 ans plus tôt, une femme aurait pu être très heureuse avec lui, jouir d'une existence aisée et saine dans cette maison du temps jadis, blanche, fleurie, ensoleillée, et si avenante que je serais restée indéfiniment à la contempler. Quelle idée d'avoir songé si tard à se marier et jeter son dévolu sur une fille de 20 ans. Mais que de gens ne savent jamais construire à temps. Quel que fût mon regret, ce mariage, étant donné les idées de Manette, n'avait aucune chance d'être accepté, même en principe, et, après réflexion, je suivis le désir de M. Lafade et ne dis rien à Geoffroy de mon entretien avec l'excellent homme qui cherchait le bonheur à près de 50 ans. D'autres l'ont découvert à cet âge fatidique et même plus tard, mais je suppose qu'ils ne s'égaraient pas aussi singulièrement dans leur choix. En rentrant au Bourdon, je trouvai Manette dans l'effervescence. Le directeur d'un grand quotidien passait dans le pays et mon cousin l'avait retenu à dîner. M. Varèse avait aidé, soutenu mon cousin lors de ses premiers pas dans sa carrière de publiciste et, malgré la différence d'âge, ils s'étaient liés d'une forte amitié. « Papa a recommandé que tout fût excellent, mais nous avons si peu de ressources. Heureusement qu'un canard a été tué ce matin. »
« C'est un fond. Lucie accommode très bien ses plats. Ne vous inquiétez pas. »
Chacun connaît ses émois quand, dans un ménage où l'économie stricte est de rigueur, il vous arrive la surprise d'un convive de marque. Mais le dîner se passa à merveille. C'était un homme aimable et fort spirituel que ce journaliste. Grand, sec, les cheveux blancs rejetés en arrière, il ressemblait en même temps à un savant et à un officier supérieur. Parisien jusqu'aux moelles, il savait tout, connaissait tout, racontait avec beaucoup de verve et s'amusait de la mine éveillée de Manette en l'écoutant. Il parlait de son journal avec le même plaisir que Geoffroy de sa demeure et d'un ton ironique qui donnait de la saveur à ses paroles, comptait ses efforts, vains ou efficaces, pour intéresser ses lecteurs. « Nous sommes esclaves de notre public, disait-il, et obligés, pour ne pas le mécontenter, à des précautions qui étonneraient bien des gens. » Nous étions alors assis dans le jardin. M. Varèse, tout en causant, fumait paisiblement un cigare, pendant que Manette était allée surveiller le dîner du chauffeur et lui donner ordre, quand il aurait terminé, d'amener l'automobile devant la maison.
Vous avez une fille charmante, est-elle, et quelle agréable habitation! On passerait volontiers sa vie ici. » Tous les Parisiens, qui ne peuvent pas se passer 8 jours de leur Paris, tiennent le même langage, répondit en riant M. Etel. Je vous assure, je me sens ce soir tout à fait campagnard, sans ce diable de journal que vous aimez par-dessus tout. C'est vrai, je l'ai relevé et bien mené indiscutablement, mais en ce moment, il baisse et je m'en inquiète. Il ne baisse pas comme rédaction. Vous avez d'excellents rédacteurs, Varès. Oui, mais l'intérêt des événements languit. Le lecteur est fatigué, il faudrait du nouveau. Un nouveau qui n'ait aucun rapport avec la guerre et ses conséquences. Ah, si la chose avait été possible, je vous aurais fourni des documents puissamment intéressants. Geoffroy, en prononçant cette phrase, qui devait avoir un jour de bien grandes conséquences, secouait tranquillement les cendres de sa cigarette et parlait sans arrière-pensée. Vraiment ? Comment cela ? Questionna M. Varès en se redressant avec vivacité. Oui, j'ai chez moi un manuscrit de lettres qui se vendrait au poids de l'or. Elles sont passionnées et passionnantes. Vendez-les-moi, mon cher. Impossible. Ces lettres me sont restées parce que leur propriétaire a disparu. Après ma mort, elles iront à la Bibliothèque nationale. Mais alors, elles iront aussi un jour au public. Faites-m'en profiter et profitez-en vous-même. En profiter moi-même ? Non, certes, en les léguant à la Bibliothèque nationale, je crois me conformer au désir de celui qui me les avait confiées pour les classer. Ah ! Manette, en revenant, interrompit la conversation. M. Varès passa à un autre sujet avec aisance et d'un air indifférent qui me trompa moi-même. J'ignorais avec quelle ardeur cet aimable vieillard prenait les intérêts de sa maison, comme il appelait son journal. Il fut allé, ou eut envoyé au bout de l'Europe, peut-être plus loin encore, pour découvrir quelque histoire passionnante, et ce mot suggestif venait d'être prononcé par M. Etel. Son automobile approchait, il se leva à regret pour partir. « Je viens de passer un bien bon moment ici, mademoiselle, » dit-il à Manette. Elle lui exprima le désir de le revoir en Anjou et l'invita aimablement à revenir au Bourdon. « Je ne dis pas non. Très probablement, je reviendrai pour affaires dans ce pays à la fin de l'automne et, si vous le permettez... »« Avec le plus vif plaisir, » répondit Geoffroy, « venez coucher chez moi. Nous aurons toujours une chambre à votre disposition. » Il remercia en acceptant et monta dans sa voiture pendant que mon imagination évoquait dans ce vieux cadre l'ancienne berline qui eût emporté, au galop de ses 4 chevaux, ce directeur de gazette. Manette, après avoir reconduit son père à la porte de la maison, revint près de moi. « À quoi pensez-vous donc ? » ?»« À l'ancien temps. » Mes réminiscences que je lui soumis convenaient si peu à sa tournure d'esprit qu'elle me répondit distraitement « Que vous êtes restée jeune, ma vieille cousine !» Elle fit quelques pas en avant pour regarder attentivement dans la profondeur de l'avenue. « J'aperçois un bicycliste près du grand chêne, » me dit-elle, avec l'intérêt qu'excite à la campagne la moindre circonstance. « Je crois reconnaître le domestique des Mascudiers. » « Un message, sans doute. » Nous attendîmes près de la grille du jardin. C'était bien, en effet, le valet de chambre de nos voisins. Il apportait une lettre que Manette lut aussitôt. « Madame Mascudier nous invite à prendre le thé demain. Nous y irons, n'est-ce pas ?»« Certainement, si vous le désirez. » Elle donna une réponse verbale au domestique, très pressée, dit-il, car il avait apporté le soir même 3 autres invitations. « C'est singulier, me dit Manette. Ne trouvez-vous pas ?»« Que voyez-vous de singulier ?» Cette réunion improvisée si vite. Ils ont quelqu'un chez eux, probablement, mais je ne voulais pas questionner Francis. Nous rentrâmes sans plus nous expliquer. Pendant les heures qui suivirent, l'air pensif de Manette s'unit à mes souvenirs avec les moindres détails de cette soirée qui, sans que nous nous en doutions, préparait son avenir.